Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Alors, vous savez que ce week-end, samedi soir, sur RMC Sport 1, il y a une très grande soirée de MMA. C'est peut-être même la plus grande soirée UFC de l'année, avec Benoît Saint-Denis au programme. Rebondissement dans l'avant-combat. On va en parler avec Thomas Desson. Salut Thomas.
Salut Thomas.
Salut messieurs. Alors, la pesée vient d'avoir lieu et l'adversaire de Benoît n'a pas fait le poids.
Exactement. Alors, on a une pesée cérémonielle le soir quand les hommes sont renfloués. Ils font 10% de plus de leur masse. 70,3, c'est la pesée qu'on doit respecter le matin, aux alentours de 8h, 9h du matin à New York. On a une tolérance de 500 grammes quand ce n'est pas un combat pour le titre. On peut donc monter jusqu'à 70,8 kilos, 156 livres. Et Benil Dariush, l'adversaire de Benoît Saint-Denis, s'est présenté sur la balance il y a une douzaine de minutes à 157,2 livres, 2,2 livres au-dessus de la pesée
au-dessus de la tolérance. Donc,
voilà, un kilo.
Il n'arrivait pas de poids. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Alors, il aurait pu se pointer tout de suite en disant, ouais, j'ai encore 3-4 livres. On lui aurait donné une tolérance pour aller enfiler une veste de sudation, se mettre au sauna. Il est arrivé à 157,2. Ce qui se passe, jusqu'à 3 livres, c'est 20 à 30% de ta bourse que tu donnes à ton adversaire.
D'accord.
Si Benoît Saint-Denis, et là, en ce moment même, c'est en train de négocier entre les deux combattants, Benoît Saint-Denis, quoi qu'il arrive, il est payé. Parce que lui, il a fait le premier job,
c'est-à-dire de faire sa pesée. Il peut refuser le combat.
C'est pas dans son intérêt. Mais il pourrait très bien refuser le combat et prendre la bourse. Souvenez-vous, il y a un certain Thomas Aspinall, il y a 15 jours, qui a pris 3,5 millions pour dire on se la refait avec Aspinall.
Vu le contexte.
Benoît est favori aux yeux des bookmakers, mais Benoît est 13e de ce classement qui est assez poreux dans cette super catégorie des moins de 70 kilos face à un adversaire qui est 9e. C'est sa première opportunité pour rentrer dans le top 10. Là où il a fait ses armes à New York, ouais, c'est le français le plus adoré des New Yorkais parce qu'il donne Action Man. Et en face, il y a un mec, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est plus dans ses baskets, qui est plus dans son short, justement, il vient de pas faire la pesée. Profites-en. Fais le combat.
Balle. Tu peux pas refuser le combat parce que t'as les organisateurs, t'as la pression des organisateurs. Faut pas te tromper. Un mec comme Benoît, il fait quand même des strapontés, il fait recette. T'as vu là, comment ils sont maqués? C'est quand même des fédérations très fermées. Si tu dis non, moi je refuse, je suis au poids, je suis payé, ouais, tout ça. Mais qu'est-ce que le programme, c'est plus le même. Benoît Saint-Denis, c'est une star là-bas. C'est une star, ça commence à être une star au niveau mondial. En MMA, c'est pas qu'une star française. Donc l'organisateur, il vient te voir et te dit, oh, ne me plante pas, papa, comment je fais? Je peux pas te remplacer. Donc il est obligé d'accepter le combat.
Juste, si on revient au combat en lui-même, c'est quoi l'enjeu pour Benoît?
Ben, on le disait, hein, c'est s'ouvrir les portes du top 10. Souvenez-vous, il y a 2 ans exactement, déjà au Madison Square Garden, il avait battu un homme en 1 minute 31, high kick au nez à la barbe, juste devant Donald Trump, qui venait d'arriver avec Kid Rock. Il s'était offert un 3e mondial. Derrière, ça avait été un peu plus compliqué. Une année 2024 plus difficile, avec 2 revers. Là, lui qui est têtu de l'aveu de son manager, son nouvel entraîneur Nicolas Hott, il surfe sur une nouvelle vague. La fusée est lancée. Il faut qu'il prenne ce combat parce qu'il est dans exactement les mêmes dispositions qu'il y a 2 ans. S'il prend la place de Benil Dariush en le battant, il rentre dans le top 10. Au printemps, pourquoi pas un top 5. Et vous pouvez imaginer qu'à la même période l'an prochain, on parle de Benoît Saint-Denis pour le titre. C'est une catégorie où on accepte les défaites parce qu'on aime ces action men, on aime ces bagarreurs qui donnent tout.
Et puis parce qu'il y a de la densité.
Absolument.
Ça
aussi.
Ça peut arriver de perdre sans être un tocard, absolument. Bah, merci beaucoup Benoît. Alors, c'est à suivre.
C'est Thomas lui.
Moi, je me rappelle, tu te rappelles.
Il est costaud, le mec.
Il est moins costaud que Benoît.
Tu te rappelles la kick qu'il avait fait à New York?
Ah ouais, c'était gros ça.
Tu te rappelles la vitesse du haki? Je te rappelle, moi, parce qu'il y avait Donald Trump qui était au premier rang, il y avait la caméra, ça lui avait levé la mèche.
Le haki, ça se fume.
Le haki.
Alors, Thomas, donc ce soir, 23h, pesé devant les spectateurs, diffusé sur RMC Sport, la chaîne Twitch et YouTube. Et puis demain, la soirée sur RMC Sport 1, à partir de quelle heure?
On sera ensemble à 1h du matin avec des combattants de l'UFC qui ont déjà brillé, William Gomis, et également, on fera des duplex un petit peu partout, notamment au Grand Rex. Benoît a décidé de faire ça un peu à l'américaine. Il y a 300 personnes qui vont regarder le combat dans une salle de cinéma. On duplexera avec eux. C'est comme ça qu'il faut regarder les combats. C'est à plusieurs, ensemble, dans une grande salle de ciné. Donc BSD va combattre à 4h12. Et ensuite, c'est la carte la plus dense de l'année. Tu venais de le dire, Pierrot, avec la première toutes catégories confondues contre la deuxième, toutes catégories confondues chez les femmes, c'est Weili Zhang contre Valentina Shevchenko. Et ensuite, Islam Makhachev, qui est le tout meilleur en ce moment, qui se lance dans un challenge après avoir été champion en 70 kilos, vient défier Jack Della Maddalena chez les moins de 77 kilos. Il y a quatre ceintures dans cette soirée et BSD va l'ouvrir tout feu tout flamme.
Jack Della Maddalena.
Giacomo Della Maddalena. Il est australien. Ancien rugbyman. Hein. Tout ça, c'est des mecs qui mettent la tête là où vous mettez pas les crampons. C'est ce que va faire BSD.
Merci Benoît. Merci.
Tu te racontes que ça, c'était une vieille expression. Au rugby, c'est une vieille expression.
Merci Thomas.
Les mecs qui mettent la tête là où tu mets pas les pieds.
C'est ça.
Mais non, mais on pourrait parler quand même de Saint-Denis. C'est quand même un mec exceptionnel. En première partie, quand on a les forces spéciales, il a toujours flingué des mecs. Son métier, ça aurait été toute sa vie de flinguer des mecs. Et là, maintenant, MMA. Mais comme ce type, c'est courageux.
Alors, on va passer au rugby. Et du coup, j'en profite, Vincent, pour te conseiller. Je pense que ça va te passionner. L'article qui est en une de rmcsport.fr. Le rugby est-il vraiment plus dangereux que le MMA? Voilà, c'est une enquête.
Pour le cerveau.
Sur les dangers de ces deux sports.
Il y a la réponse, alors.
Il y a la réponse.
Vous pouvez voter.
Questionnement, il y a des spécialistes qui en parlent.
Les médecins qui s'expriment. C'est un dossier.
Mais attends, le problème, c'est que au rugby, ça joue pas pour nous parce qu'on est plus nombreux. Et donc, il y a automatiquement plus de commotion.
Et puis le rugby, il y a beaucoup plus de matchs, quoi, de combats. Chaque semaine, tu prends des coups.
Non, MMA, si tu fais trois combats.
Vous avez vu aux États-Unis le concours de chiffres maintenant, là? C'est un truc de
fou.
Ça, c'est pathétique.
Moi, ça m'écœure. Déjà, le MMA, je vais te dire un truc. Le MMA, quand je vois les nanas, moi, j'ai quatre filles. Quand je vois les nanas, je ne regarde pas les combats. Je ne regarde pas les combats. Parce que nous, on a ce truc. Mais oui, de perdre, tout ça. Autant les mecs, ils peuvent se crever. À la limite, ça me plaît, ça me fait plaisir. Autant les nanas, c'est insupportable.
Alors, le rugby, on y va. Donc, France-Fidji, c'est le retour de Grégory Aldrit en tant que capitaine des Bleus. Après avoir suivi la rencontre face au box en tribune, est-ce qu'il a mal vécu cette mise à l'écart?
Non, ça a été expliqué par le staff très clairement. Je l'ai compris. Le premier fautif dans l'histoire, c'est moi. J'ai pas forcément été le plus performant sur certains matchs début octobre. Seule personne à qui j'en voulais, c'était moi. Comme je dis, le staff me l'a expliqué clairement. Et quand c'est fait de cette façon, on peut que bien le prendre et que se remettre en question soi-même. Après un match de 80 minutes et bien fatigué, c'était une phrase pour dire j'avais besoin d'amour et remercier surtout ce public de La Rochelle qui m'avait fait vivre un match exceptionnel en termes d'ambiance et de reconnaissance. Il n'y a pas d'arrière-pensée ou de quelconque mal-être ailleurs. C'était juste sur le moment pour exprimer ma gratitude envers ce public qui a été formidable.
Et bien géré le cas Aldrit, Vincent?
Oui, bien géré, parce que c'est... Écoute-moi, j'aurais aimé, encore une fois, Denis le disait, qu'il y a 20 ans, 30 ans, que les mecs, ils gèrent les trucs comme ça. Je trouve que c'est... Même Galtier, c'est un psychologue par rapport à ce qu'on a connu. Et c'est bien géré, et qu'il est mal au cœur quand il joue pas contre l'Afrique du Sud. Ma foi, il y a la moitié des mecs du top... Tous les mecs qui sont prétendants à l'équipe de France qui ont mal au cœur de pas jouer. Ouais. Lui, en plus, c'est un taulier. Il a été piqué, il a fait un match énorme. Écoute, je pense que c'était à la sortie, c'était bien pour tout le monde.
Non seulement c'est bien géré, mais en plus vous rendez compte, il revient capitaine.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il est dans les tribunes, il regarde le match France Afrique du Sud. Une semaine après, il est capitaine de l'équipe de France. C'est une reconnaissance formidable.
J'imagine que le joueur, c'est quand même plus kiffant de jouer contre l'Afrique du Sud que de jouer contre les Fidji, non?
Quand t'es capitaine, Stéphane, c'est tellement honorifique que tu le prends.
Ouais, voilà. T'as la médaille en plus, quand même. T'as pas de brassard, bien entendu, mais t'as une médaille en plus, t'as une responsabilité. Capitaine au rugby, je pense que t'as tous les sports.
C'est spécial,
tu vois, c'est quelque chose de.
En plus, c'est bien. Galons, il est bilingue total, hein, puisqu'il a du sang écossais. Donc avec l'arbitre, c'est bon, là. Tu peux parler à l'arbitre, tu peux l'embrouiller.
Je pense qu'il va faire un gros match. Je pense que ça va piquer.
Je pense qu'Aldrit, il serait allé en Azerbaïdjan s'il était capitaine des
Bleus. Oui, bien sûr.
Chaque fois qu'on a l'occasion de porter ce maillot, c'est un privilège, on ne s'en lasse pas.
Non, c'est Mbappé qui a dit ça.
Non, c'est Grégory Aldrit.
Pierrot, il a le débat encore. Hein. Tu voulais parler de Galtier qui était rentré.
Non, mais c'est vrai, regarde, Galtier, 2003, match pour la troisième place, il s'échappe, c'était
très très mal vécu.
Très mal vécu.
Par toute son équipe. C'est pas pareil, c'est jamais pareil.
Il n'était pas capitaine.
Non, mais Pierrot, on va pas dans ton sens en disant que c'est pareil. Toi, tu te files des trucs, tu te mets des bons. Toi, Pierrot, tu te mets des bons points, tu dis toujours que t'as raison. On va arrêter, quoi. On va arrêter, t'es une mauvaise foi, Pierrot. Tu l'as dans le nez, c'est comme Campos. Tu l'as dans le nez, il peut être champion d'Europe. Tu mets ça dans le nez. Donc, si tu me dis, si un mec n'est pas objectif, c'est toi, t'es pas objectif, Pierrot. T'es passionné, t'es président du PSG, t'es pas objectif.
Bravo, voilà. Stephen, c'est parce qu'il a quitté le PSG. Voilà, évidemment.
Stephen, regarde-moi dans les yeux, Stephen. C'est la dernière fois que tu remets une pièce sur ce débat-là. Je t'ai vu là, avec ton œil de saligo.
Donc je ne donnerai plus mon avis.
Il se sort des bons trucs, Pierrot, il te dit qu'il a raison.
Mais t'es le premier à dire qu'un match pour la troisième place, ça n'a aucun intérêt. Donc vu que je suis disqualifié, je ne donnerai plus mon avis ni sur Mbappé, ni sur Campos, ni sur le PSG.
C'est dingue, ça.